aujourd'hui, Catherine et François Schenk, nous vous recevons pour la troisième fois. En 2013, vous avez évoqué les réfugiés alsaciens et mosellans en Périgord entre 1939 et 1945. En 2018, vous avez traité le sujet suivant, 1940 en Dordogne, année de rupture. Vous êtes tous les deux, auteurs de nombreux ouvrages, pour une bonne part liés à cette rencontre entre l'Alsace et le Périgord pendant la guerre. Mais François, vous avez une passion, le billard. Et vous êtes l'auteur d'ailleurs très récemment d'une histoire du billard en France, qui est ici. Si vous vous y intéressez, vous rapprocherez de François. Et aujourd'hui, vous allez évoquer pour nous l'histoire d'une femme, Yasmine Moulay-Brahim. Comme son nom l'indique, elle n'est pas d'origine française mais marocaine. Dans les années où être une femme libre, surtout elle, était bien difficile et qui fut en même temps championne de billard. Eh bien, nous sommes très heureux de vous accueillir pour la troisième fois. Merci de votre fidélité à notre association et nous vous écoutons.
Bon. Alors, François, qui est joueur de billard, comme vous l'a dit Madame Garrigou, connaissait de réputation Yasmine. Et en 2019, la Fédération française de billard qui souhaitait et qui souhaite toujours promouvoir le billard au féminin, lui a demandé d'écrire un article sur elle, comme d'autres ont été écrits sur d'autres championnes. Et alors, à la suite de cet article, on a été contacté par la filleule de Yasmine, qui nous a appris que son fils habitait Périgueux, ce que nous ignorions totalement. Donc François est allé le voir, ils ont sympathisé, et François lui a proposé d'écrire un livre sur sa mère, ce qu'il a accepté tout de suite avec enthousiasme, et il a mis à notre disposition tous ses documents familiaux. Et il y en avait une quantité incroyable, des articles de journaux, des photos, des lettres. Donc une manne extraordinaire qui nous a fait découvrir dans le détail le parcours de cette vie, de la vie de cette femme, très moderne pour son époque. Et nous allons commencer en vous racontant un peu la vie de sa mère, qui elle aussi était une femme libre. La fille avait vraiment de qui tenir.
Oui, c'est une histoire qui commence en fait à Saint-Étienne, si j'arrive à repérer mon curseur.
Je cherche la touche qui me fait pas. Voilà.
Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, c'est la mise en route qui est difficile. Donc nous sommes en juin 1911 à Saint-Étienne, plus précisément en face de la manufacture des armes et cycles de Saint-Étienne, qui maintenant n'existe plus. On y vendait, vous le savez, d'ailleurs le nom même l'indique, des cycles, mais on y vendait aussi des armes. Et c'est pour les armes qu'est venu à Saint-Étienne le personnage que je vais essayer de vous montrer, le voici, qui s'appelle Moulay-Brahim, Ben Moulay Tayeb Ben Abdeljelil, vous excuserez mon accent qui n'est pas particulièrement adapté sans doute à la façon de prononcer chez eux. C'est un shérif d'Ouezan et le fait qu'il s'appelle Moulay indique que c'est un descendant direct du prophète Mahomet. En droite ligne, à la 32e ou 33e génération, je ne me souviens jamais. On va l'apprendre tout à l'heure parce que vous verrez peut-être la lignée. Qu'est-ce qu'il est venu faire à Saint-Étienne ? Pas acheter des cycles, mais acheter des armes. Pourquoi acheter des armes ? Parce qu'il était le chef d'une... comment on appelle ça ? Une zaouïa.
Zaouïa.
Une zaouïa, c'est une sorte de groupe avec à sa tête un personnage qui là était Moulay-Brahim et qui, à l'époque... défendait un territoire, la frontière Maroc, Algérie, tout ça, c'était pas bien marqué encore. En 1911, il y avait toujours des des batailles pour savoir où exactement où elle allait se situer. Et en fait, sur le terrain, eh bien, c'était les Zaouïas qui faisaient la loi. Et lui venait acheter des armes pour ses hommes. Alors il est accompagné d'un certain nombre de ses hommes. Il était accompagné, comme ça se faisait à l'époque, d'une espèce de chaperon, qui était son oncle en fait. Et il se présente donc à la manufacture des armes et cycles de Saint-Étienne pour faire ses emplettes. En face de la manufacture des armes et cycles de Saint-Étienne, il y avait une belle maison dans laquelle se trouvait la famille Beuc. La famille Beuc, vous en avez un échantillon ici. En fait, vous avez les enfants. Il manque le père et la mère. Le père, Antoine Beuc, était percepteur,
directeur des contributions,
même. En fait, c'était le troisième personnage du département à l'époque, donc c'est quelqu'un d'important. Sa mère, bon, elle avait un héritage conséquent, c'était une famille riche. Et le bâtiment qu'ils occupaient se trouvait juste en face de l'hôtel où était descendu Moulay Brahim. Les enfants que vous voyez ici, eh bien, ils sont trois garçons et trois filles. Émile, Louis, Marguerite, Rose, Blanche et Henri. Et celle qui va nous intéresser, c'est celle que j'essaye de vous montrer avec le marqueur en ce moment. Ça marche ? Ça marche. Elle s'appelle Rose. C'est la cadette. Et c'est elle qui va être l'héroïne de la première histoire de Yasmine Moulay Brahim, parce qu'elle va être sa mère, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle devienne sa mère ? Eh bien, il se trouve que Moulay Brahim sort de son hôtel pour aller à la manufacture. En même temps, Rose sort de sa maison pour aller faire du patin roulette. Et elle a les patins sur l'épaule et lui est frappé par la beauté de cette fille qui sort de cette maison et il la suit. Il la suit jusqu'au skating, ils appelaient ça comme ça, ça n'a guère changé depuis. C'est toujours un terme anglais qui est utilisé pour aller faire son patin roulette. Et là, il est séduit par la grâce de cette fille qui non seulement sait patiner, mais le fait avec grâce. Il faut savoir que dans la famille Beuc, il y a une caractéristique commune à tous les enfants, ils sont à l'aise dans leur corps. On peut leur proposer n'importe quoi, ils se débrouillent. En outre, et c'est une caractéristique commune encore, ce sont des joueurs. Ils jouent. Et enfin, troisième caractéristique commune à tous, qui va avoir un rôle dans cette affaire, ils ont du caractère, beaucoup de caractère. Un sale caractère, on pourrait dire en général. Donc voilà pour la famille Beuc. Et on se retrouve donc au skating avec Moulay Brahim, qui est fasciné par cette jeune fille. Le soir même, la jeune fille, Rose Beuc, reçoit ce petit mot. Alors, c'est peut-être pas facile à décoder, mais enfin, veuillez me donner votre adresse de suite. De suite répondre. Je suis, alors il faut mettre mes lunettes là, parce que d'où je suis, j'arrive pas à lire moi. Je suis à votre disposition pour nous marier, mais je suis de famille, alors là il manque un mot, mais on suppose que c'est musulmane. Musulmane. Donc ça c'est le coup de foudre, parce qu'on se rencontre l'après-midi et le soir on fait une demande en mariage. Hein. Dans un français approximatif qui est sans doute dû à l'oncle, parce que Moulay Brahim lui-même n'était pas particulièrement locuteur du français. Alors, Rose, qui a du caractère, que je vous l'ai dit, et à qui Moulay Brahim n'était pas indifférent, finalement, elle l'avait remarqué, elle aussi. Hein. Eh bien, elle est d'accord. Elle est d'accord et elle convainc sa famille que Moulay Brahim serait un bon mari pour elle. Et la famille Beuc, qui est quand même une famille bourgeoise bien établie, mais qui a une large ouverture d'esprit, donne son accord. Pas forcément immédiatement, il y a sans doute des négociations, là on ne connaît pas le détail, mais donne son accord. Donc le mariage va avoir lieu. Le mariage va avoir lieu entre ce descendant du prophète et cette jeune fille d'une bourgeoisie catholique de Saint-Étienne. Alors, quant au descendant du prophète, eh bien, voici dans la première page du contrat de mariage qui est établi à cette occasion, droite, là, vous avez la liste des ancêtres de Moulay Brahim. Donc ça, ça démarre à ses parents et puis ça se termine en bas, là, par... Alors, il faut que je m'approche pour voir un peu mieux. Fils de Moulana Fatma, fils de Mahomet. Donc c'est bien une descendance en droite ligne qui figure sur le contrat de mariage. Souvent, dans le monde du billard, on émettait des doutes sur la légitimité du titre de shérifa ou de princesse qu'elle se donnait. Non, non, Yasmine, qui sera la fille de Moulay Brahim, descend bien, effectivement, de Mahomet. Un contrat est passé donc devant Maître Noël Thiollier, notaire à Saint-Étienne. Tous les titres figurent jusqu'à la 33e génération. Et dans le contrat, il y a une donation qui est faite à la future épouse de jardin, on a appelé ça comme ça dans le contrat, dans les provinces d'Oran et du Gourara, qui sont à la limite du Maroc et de l'Algérie, on ne sait pas trop où les situer, pour un montant général de 13 500 francs, ce qui fait un petit peu moins de 50 000 euros. Alors, contrairement également à ce qui se disait dans le monde du billard, il n'était pas particulièrement riche, le Moulay Brahim. Il avait des biens, il avait de l'argent, mais ça n'était pas une puissance financière. Alors les voilà tous les deux le jour du mariage. Le mariage a lieu en novembre 1911. De juin à novembre, vous voyez qu'il s'est écoulé un petit peu de temps quand même, alors que l'accord était fait depuis longtemps. Au mois de juin, on savait que le mariage aurait lieu. Pourquoi ce délai? Bien parce qu'il fallait qu'arrive d'Algérie et de la part d'une autorité française un document qui légitime Moulay Brahim, qui légitime ses titres, qui légitime un certain nombre de choses nécessaires pour se marier. Ça a mis, comme dans toute administration, un certain temps pour arriver à destination, c'est-à-dire à Saint-Étienne. Ça n'est arrivé qu'en novembre 1911 et le mariage a suivi. Ça a été un grand événement. À Saint-Étienne, tous les journaux en ont parlé. Et Catherine va vous lire un extrait d'un article d'un journal, il y en a eu plusieurs, parlant de ce mariage, ce grand mariage.
C'est un article du Petit Marseillais. Hier soir à 5 heures a été célébré à l'hôtel de notre ville un mariage dont l'annonce avait excité une curiosité énorme. Mademoiselle Rose Beuc, fille du directeur des contributions indirectes de Saint-Étienne, a épousé Moulay Brahim Ben Tayeb, un des shérifs d'Ouezan. Moulay Brahim était venu à Saint-Étienne en juin dernier, accompagné d'une suite, pour visiter les fabriques d'armes. Il fit la connaissance de Mademoiselle Rose Beuc qui se rendait dans un skating et s'en éprit éperdument. L'édifice municipal avait été véritablement assiégé d'une foule compacte et quantité de curieux s'étaient portés devant le domicile de Monsieur Beuc, place du Peuple. Les mariés eurent toutes les peines du monde pour monter en voiture, pénétrer dans l'hôtel de ville et entrer dans la salle des mariages bondés d'amis et de curieux. Alors, je voudrais préciser que Rose Beuc, elle avait 15 ans. C'est un petit détail.
Oui, et Moulay Brahim n'était guère plus
âgé. Il avait 17-18 ans.
Il avait 17-18 ans. Donc ce sont des enfants qui se marient en quelque sorte. Et les journalistes font des pronostics sur l'avenir de leur mariage. Il y a ceux qui disent « ça ne peut pas marcher ». Elle est catholique, il est musulman, elle ne parle pas l'arabe, lui ne parle pas le français, comment vont-ils pouvoir vivre ensemble ? D'autres disaient, oui, mais bon, ils sont jeunes, ils vont se faire vite l'un l'autre et vous verrez que ça tournera bien. D'ailleurs, il y a des exemples dans la famille de Moulay Brahim d'un mariage réussi entre une Anglaise et un Arabe. Le chef de la famille dont dépend Moulay Brahim, la famille d'Ouezan, s'était en effet marié avec une Anglaise et ça avait très bien marché. Donc les paris sont ouverts pour la suite et vous saurez la suite tout à l'heure. En attendant, nos jeunes tourtereaux partent faire le tour des possessions de Moulay Brahim et des donations qu'il a faites à sa femme, une sorte de périple de voyage de noces en Algérie, aux confins de l'Algérie et du Maroc. Alors il débarque à Alger et puis il visite successivement des endroits qui s'appellent Djelfa, Gardaïa, Laguad, à nouveau Djelfa où il repasse, Chelala, Saïda et Oran. Et ça s'arrêtera là pour ce périple. On vous montre sur la carte, c'est entouré de cercles ou d'ovales, les différents endroits par lesquels ils sont passés. Donc Alger est ici, là où j'ai mis le pointeur laser. Et puis, ça descend, ils descendent ici, puis plus bas, là, et après, ils remontent vers Oran. Comme ça. On peut vous montrer à quoi ressemblent les endroits qu'ils ont visités. Il y a des cartes postales qui ont été envoyées par Rose à une de ses amies, c'est Marcel Chapuis, je crois. Et elle lui écrivait tous les 2-3 jours pour lui dire où elle était, ce qu'elle faisait, comment ça se passait. Donc vous avez sur la carte en haut à gauche Djelfa, vous avez ensuite à droite Chelala, vous avez ensuite l'hôpital de Lagouat. Alors elle a envoyé une carte postale de l'hôpital parce qu'en cours de route elle est tombée malade assez sérieusement et elle a été hospitalisée plusieurs semaines. Et puis, elle le termine par une carte postale montrant dans quoi elle logeait pendant tous ses périples. Voilà mes maisons, ça dit ce que ça veut dire. Hein. On comprend bien que ce n'est pas particulièrement confortable. Mais, comme elle le dit et l'écrit très souvent à Marcel Chapuis, elle s'amuse. Ça l'amuse beaucoup de rencontrer les caïds qui sont sous l'autorité de son mari. Ça l'amuse beaucoup d'être très honoré, ils viennent la toucher, ils viennent leur présenter des vœux, etc. Donc elle est très contente de ce qui se passe. Mais on sent bien au fur et à mesure que les cartes postales arrivent à Marcel Chapuis que quand même il y a une sorte de lassitude qui s'installe, d'abord par le manque de confort, d'autre part par le fait qu'elle a quitté sa ville natale, Saint-Étienne, et qu'elle commence à avoir une petite nostalgie de sa ville. Alors, lorsqu'elle arrive à Oran, après s'être rétablie de l'indisposition qui l'avait conduite à Lagouat, elle décide de rentrer en France, finalement. Elle décide de rentrer en France quelque temps. Son mari, lui, décide de rester sur place, parce qu'il a des choses à voir avec sa... Zaouia. Et il veut régler des problèmes, justement, de territoire, etc. Et il est rejoint, d'ailleurs, sur place par un des frères de Rose, qui, lui, est venu en Algérie pour l'accompagner pour la suite de son périple. Donc Rose rentre chez elle à Saint-Étienne, et Moulay Brahim reste en Algérie, ou au Maroc, puisqu'on ne sait pas très bien. Et il s'active là-bas, il est francophile, lui. Il faut savoir qu'on est encore dans la période de colonisation, plus ou moins, et que pour le Maroc en particulier, rien n'est véritablement réglé. Et la famille d'Ouezan était plutôt pas trop francophile. Ils n'aimaient pas trop voir les Français débarquer et avoir la prétention de faire du Maroc une colonie. En revanche, Moulay Brahim, qui vient de se marier avec Rose, lui, était très francophile. Donc il défend les intérêts français d'une part auprès de sa famille, qui a son mot à dire, c'est le moins qu'on puisse dire dans cette affaire, et il s'illustre puisque des articles de journaux, de temps en temps, font passer des échos le concernant. Alors on vous en a mis un ici, c'est la Tribune républicaine du 24 avril 1912, et on s'aperçoit qu'il a rendu service à un certain nombre de journalistes qui étaient réfugiés dans une maison et en sale posture parce qu'ils étaient entourés de gens qui étaient contre les prétentions françaises, des journalistes français, bien entendu. Donc voilà, ils sont séparés, mais
il revient
en France quand même, parce que sa famille y est, il revient en 1913, au mois de janvier, il revient en 1912, neuf mois avant, et là, il reste quelques jours. Et évidemment, ils font des choses, puisque neuf mois après, Yasmine, notre héroïne du jour, naît. Alors, il n'y a pas beaucoup, c'est curieux, de photos d'elle bébé dans les photos familiales. Toutes ces photos qu'on vous présente sont des photos qui viennent de Christian, son fils, et sont des photos originales. On l'a là vers l'âge de combien ? Quel âge elle peut avoir ? Quelques mois.
Neuf mois, un an.
Sa mère dans un petit berceau, là, une sorte de petit machin en osier, comme je ne sais pas qualifier. Et puis on a une photo un petit peu plus âgée, à quelques années, là. Elle ressemble à ça. Et on va la voir dans quelque chose de plus intéressant parce que ça montre la dualité de son origine. Voici Yasmine. vers l'âge de un peu plus de 10 ans, ou un peu moins de 10 ans, je pense que la première, c'est un petit peu moins de 10 ans, et que la deuxième, c'est un petit peu plus de 10 ans. Dans la première, elle est en danseuse arabe. Mmh. On vous disait qu'elle a, la famille Beuk en général, et elle en particulier en a hérité, elles sont à l'aise dans leur corps. Et elles dansaient particulièrement bien. Et là, elle se donne en spectacle, mais un véritable spectacle. Il y a un article dans les journaux qui parle de la danseuse Yasmine Moulem Rahim. Elle a pris le nom de son père, Moulem Rahim, et on l'a prénommée Yasmine. Yasmine, elle est donc musulmane apparemment, mais elle est aussi catholique puisqu'elle fait sa première communion. Alors, en fait, on ne peut pas dire qu'elle est française, on ne peut pas dire qu'elle est marocaine. Elle est franco-marocaine. Elle a un père marocain et elle a une mère française. Et elle va traîner ça, enfin traîner, non. Sa vie, ça va être une conséquence de ça en particulier. Ces deux branches paternelles et maternelles n'ont pas la même religion. Et ça va poser un certain nombre de problèmes. Elle est princesse, mais elle a fait ses communions. Elle est shérifa, mais elle a fait ses communions. Le temps passe, et Moulay Brahim, après 1913, il est en Algérie ou au Maroc, on ne sait pas très bien. Sa femme, Rose, qui est restée en France, elle, ne sait pas très bien non plus. Elle va faire quelques incursions au Maroc ou en Algérie, elle descend à Oran en général, et puis elle circule dans les zones qu'elle a visitées dans son voyage de noces, et elle cherche où est son mari. Et elle ne sait pas. On perd sa trace, et lui ne donne pas signe de vie. Il est vivant. On en entend parler par des parents marocains, mais on ne sait pas trop ce qu'il devient, ce qu'il fait, etc. Ça commence à peser, et en attendant, Yasmine, elle est élevée par sa famille maternelle, donc dans la religion catholique, et elle va à l'école comme tout bon petit français. Elle est élevée à la française. Et puis on apprend par une lettre d'un parent, Moulay Ali, qui est le chef de la famille de Ouezan, ce qui s'est passé. Pardon ?
C'est un des fils de l'Anglaise.
Oui, c'est un des fils de l'Anglaise dont je vous ai parlé tout à l'heure. On apprend ce qui s'est passé par une lettre qu'il écrit vers 1920. Je ne sais pas si on a la date là. Oui, peut-être.
Un peu plus tard, parce que c'est après le décès de Moulay Brahim.
Voilà, donc Catherine va vous lire cette lettre.
Donc en fait, il explique que Moulay Brahim, comment ils ont fait connaissance. En fait, il est venu se présenter en disant qu'il était descendant d'Ouezan. Donc ils ont fait une enquête pour savoir s'il était vraiment descendant des shérifs d'Ouezan. Et oui, il l'était, mais c'était en fait un lointain cousin et qui avait fondé une zaouïa dans le Gourara. Le Gourara, c'est quand même une zone assez perdue à la frontière algéro-marocaine. Et donc C'était un lointain cousin, voilà. Et donc il est revenu en 1920, il est revenu voir ce cousin Moulay Ali, et qui explique que Moulay Brahim était à l'époque dans un état de santé déplorable et dans une situation financière précaire. Je lui fis promettre de faire le possible pour réparer sa faute morale et matérielle en abandonnant une shérifa de notre sang pour être élevée dans une autre religion que celle de ses aïeux, entre les mains d'étrangers, ignorant toutes les traditions de sa famille. Pardon. Quelque temps plus tard, j'eus la douloureuse nouvelle de son décès. Il est décédé à Tunis en 1922.
Donc vous voyez, de 1913 à 1920, on n'a aucune nouvelle, et puis d'un seul coup, on apprend qu'il n'a plus beaucoup d'argent, il est dans une situation de santé difficile, au point qu'il va mourir. Rose n'a pas attendu qu'il meure pour divorcer. Elle divorce vers 1920, justement, oui. Et elle se met en ménage avec un monsieur qui s'appelle Sublet, dont on n'a jamais pu trouver le prénom,
oui.
Monsieur Sublet. Et elle se fait appeler Rose Sublet dans la suite, vous allez le voir, en particulier lorsqu'il s'agira de billard. Et puis elle apprend le décès de Moulay Brahim, son mari, donc elle se retrouve veuve. Et la petite Yasmine va donc être élevée par le couple Rose Beuk, Rose Moulay Brahim, appelons-la comme on veut, et Monsieur Sublet. Alors, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait comme toutes les petites Françaises de l'époque, elle va à l'école. Donc on a retrouvé une photo d'une classe qui doit être probablement quelque chose du genre actuellement troisième, peut-être quatrième ou seconde, selon, je ne suis pas très doué pour voir l'âge des filles, moi, mais je dirais troisième. C'est celle qui est entourée de rouge, je pense que vous la voyez, donc là c'est Yasmine Moulay-Brahim, et ça se passe à Cannes. Ça se passe à Cannes, pourquoi? Parce que M. Sublet a un pied-à-terre à Cannes, qu'il occupe lorsqu'on est en été, et il va passer la saison d'hiver plutôt à Vichy, où il a sa résidence principale. Donc M. Sublet n'était pas quelqu'un qui était à la rue, et Rose Beuc savait choisir ses compagnons de route, de ce point de vue-là en tout cas. Alors elle va à l'école. Et pour aller à l'école, de l'endroit où elle réside, où elle habite à l'école, il faut passer par la plage. Elle passe par la plage. Et sur la plage, elle rencontre sur la route, elle rencontre souvent ce monsieur, là, qui s'appelle Vjekoslav Pejic, qui est un Yougoslave, un serbo-croate. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est serbo-croate le terme qui convient, mais enfin maintenant, oui. c'est dans cette zone. Il était artiste. Il avait du charme, tellement de charme qu'il lui a plu à Yasmine, et comme elle avait elle-même du charme, ils se sont plu. Ils se sont plu et ils se sont aimés sur la plage. Donc ça va vite, hein. Ça va vite, comme vous le voyez. Yasmine, elle a 15 ans,
oui. Hein,
comme sa mère,
ouais.
Telle mère, telle fille. Et il est issu de cette rencontre sur la plage. Quelqu'un que dans la famille on appelait le Pou du Sable. Le Pou du Sable, c'est le fils de Yasmine Moulay-Brahim et de Vjekoslav Pejic. C'est Christian Moulay-Brahim, celui qui nous a fourni toute la documentation qu'on vous présente aujourd'hui. Donc il est, lui, de père inconnu à l'heure actuelle et de mère Yasmine Moulay-Brahim. La famille de Yasmine a les idées larges, mais elle n'est quand même pas particulièrement séduite par cette histoire-là, donc elle souhaite le mariage. Rose dit oui. Rose dit oui, et on entreprend les démarches, parce que là encore, il va falloir des démarches. Il n'est pas français, le monsieur. Donc il faut faire venir des papiers de Croatie ou de je ne sais où. Enfin, on sait où, mais moi, je ne sais plus, je n'ai pas la mémoire qu'il faut. Hein. Et voilà les papiers qui viennent. Alors on va peut-être savoir ce qu'il est.
Il était bosniaque.
Il est bosniaque. Voilà, il n'est pas du tout serbo-croate, il est bosniaque.
C'est dans le coin, hein.
Ça, c'est la copie de son acte de naissance qui est nécessaire pour le mariage. Elle est reçue le 22 mai 1928, alors qu'ils se sont rencontrés un petit peu avant, évidemment. Et elle donne des indications sur la situation de naissance de Vjekoslav. Le mariage va avoir lieu? Eh bien, non. Non, il ne va pas avoir lieu. Pourquoi il ne va pas avoir lieu? Parce que Yasmine s'est rendu compte, entre le temps où elle a fauté et le temps où les papiers sont arrivés, que son futur mari avait un comportement qui ne lui plaisait pas beaucoup. Il semblait boire, beaucoup boire. Il semblait jouer, pas mal jouer. Et donc elle dit, non, moi je ne me marie pas avec ce gars-là. Et ça, c'est caractéristique de son comportement à elle. Elle fait des choix. Et des choix qui sont importants, parce que décider en 1928 de ne pas se marier quand on avait fauté, je reprends les termes de l'époque, ça avait des conséquences non négligeables. À la fois pour la mère, mais pour l'enfant. Et sur toute la famille. Alors de ce point de vue-là, la famille a été exemplaire. Elle n'a posé aucun problème, elle a accepté le refus du mariage et elle a aidé Yasmine, qui ne gagnait pas sa vie, qui n'avait rien pour vivre, à se retourner le temps de pouvoir vivre de ses propres revenus. Voilà Christian, on vous le montre à l'époque, il est très joli, il est bouclé. C'est le 13 novembre qu'il est né, et là, je ne sais pas, mais c'est quelques...
Un an peut-être.
On n'a pas la date de la photo, malheureusement. Pendant ce temps-là, Yasmine se dit, il faut que je gagne ma vie, donc elle entreprend de suivre des cours de sténographie à l'école Pigier. À l'école Pigier, à Cannes, là-bas.
Et
Elle était rentrée à Paris. Elle était rentrée à Paris à ce moment-là. À l'école Pigier à Paris, j'ai dit une bêtise. Et donc elle suit ses cours, elle obtient un diplôme de sténographie et ça sera son seul diplôme d'ailleurs. Et c'est avec ça qu'elle va tenter de gagner sa vie. Alors elle va travailler effectivement. Avant d'avoir le diplôme, elle avait déjà trouvé un emploi. Elle avait déjà trouvé un emploi qui était dû probablement plus à son charme qu'à ses capacités professionnelles. Je suis méchant, mais je pense décrire une réalité. Il suffisait qu'elle se présente. Ne mettez pas derrière « elle doit plus à son charme qu'à ses capacités professionnelles », ce que je n'y mets pas. Elle se présente et immédiatement, que ce soit un homme ou une femme en face, elle est adoptée. Elle a un charisme extraordinaire. Et ça, tous les témoins sont d'accord là-dessus. Et donc, je retire peut-être ce qui est méchant dans ce que j'ai dit ou ce qui peut être mal interprété. Allez. Mais gardez présent à l'esprit cette caractéristique de Yasmine. Et elles se disent, la mère et la fille, Rose et Yasmine, que peut-être pour Yasmine, ce serait intéressant d'essayer de retrouver les biens dont Moulay Brahim avait fait donation avant sa mort. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y avait un contrat de mariage et donc il y avait des propriétés qui appartenaient à Rose. Elles vont donc à Oran pour essayer de voir ce que l'on peut faire de ce côté-là. Elles vont à Oran et la photo qu'on vous présente ici a été prise à Oran. La mère à gauche, la fille à droite, une certaine allure générale commune. Elles ne se ressemblent pas de visage, mais elles ont un peu la même stature, le même port, la même façon de se déplacer. Et là, elles tombent de haut. Parce qu'elles apprennent que finalement, ce qu'écrit un notaire en France n'est pas forcément reconnu par les autorités marocaines. Et les ennuis vont commencer de ce point de vue-là. Et c'est Moulay Ali, le chef de la famille Louezan, qui leur fait part de choses désagréables. Alors Catherine va vous lire un extrait d'une lettre. Il y a toute une correspondance qui se trouve dans la famille, qu'on a pu consulter. Et Catherine va vous lire peut-être ce qui est la première lettre ou un extrait
de
ce qui est la
première lettre. Non, je dirais que c'est plutôt vers la fin. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la famille de Moulay Ali aurait voulu que Yasmine les rejoigne et retrouve sa famille musulmane et redevienne musulmane. Et donc, en fait, il y a un peu de chantage de sa part à lui par rapport à ce qu'il peut faire ou ne pas faire pour aider à récupérer ses biens. Et donc là, c'est une lettre où il explique « J'ai reçu une réponse de l'émissaire au sujet des terrains du Gourara. Il pense qu'il n'y a rien à faire sans mon intervention personnelle. Malheureusement, dans l'état actuel des choses, je ne puis intervenir pour les raisons que je vous ai déjà expliquées. Mon intervention ne pourra avoir efficacement lieu que le jour où Yasmine décidera d'être des nôtres et de faire cesser cette terrible situation aussi pour moi aussi bien que pour nos co-religionnaires. »
Autrement dit, voilà un choix devant lequel Yasmine est placée. Où elle se dit musulmane, elle récupère ses titres, ses biens, et elle peut vivre comme une princesse, mais au Maroc, dans la famille marocaine, qui est la tutelle qui va la surveiller, où elle refuse cette possibilité, et du coup, elle va vivre en France. Son titre, il existe toujours, mais sans aucun des avantages qui l'accompagnent. C'est un choix, et elle choisit. Elle choisit de retourner en France et d'élever son fils toute seule, sans les moyens financiers qui lui tendent les bras, mais qu'elle ne veut pas accepter. Elle veut vivre libre. Et c'est sa caractéristique principale. Alors, ça pose problème, évidemment. La famille, là, va jouer un rôle très important, la famille Beuk, elle va aller chez ses frères, chez ses sœurs, elle va aller chez ses parents également. Elle va pouvoir vivre par ce qu'elle gagne, parce qu'elle gagne quand même un petit peu d'argent avec son diplôme et le métier qu'elle pratique, de stélodactylo, mais c'est un peu misérable quand même. Si elle devait subvenir aussi à l'hébergement, si elle n'avait pas la famille pour l'aider, ça ne se passerait pas très bien. Les choses vont changer l'année 1930. Un mot quand même sur la correspondance que je voudrais dire. La correspondance entre Moulay Ali et Yasmine, ou sa mère, a duré quelques semaines, disons 2 mois. Et c'est très curieux de voir comme le ton de Moulay Ali change. La première lettre que j'évoquais tout à l'heure à tort, elle commence par « chère mademoiselle » ou quelque chose de ce genre. La dernière lettre, et il la vouvoie, la dernière lettre, il la tutoie. Et il utilise des termes beaucoup plus chaleureux, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, il est tombé amoureux d'elle, et il lui a proposé le mariage. Et elle a refusé ce mariage. Alors là, on vous emmène à Vichy. On vous emmène à Vichy en 1930, parce que c'est là que va se produire une rencontre importante pour Yasmine. Vichy, c'est une ville de villégiature à l'époque où un certain nombre de personnes, des Parisiens très souvent, mais pas seulement, venaient passer donc l'été ou l'hiver selon les circonstances. Là, nous sommes en été. Elle s'y trouve parce qu'elle a de la famille qui s'y trouve aussi. Et s'y trouve un autre personnage qui est Vincent Scotto. Vincent Scotto, à l'époque, c'est le compositeur avec un L majuscule à le. Et un C majuscule pendant qu'on y est un compositeur. C'est lui qui écrit toutes les chansons à succès ou presque de l'époque, et c'est un personnage considérable dans le monde de la chanson et plus généralement de du showbiz, disons, parce qu'il intervient aussi au cinéma et ainsi de suite. Donc il y a là une rencontre qui va se produire entre Yasmine et Vincent Scotto. Alors, je vous les présente tous les deux comme ils étaient à l'époque. Donc, voici à gauche Yasmine, elle a 18 ans, elle joue au yo-yo. On vous a dit qu'elle était à l'aise avec son corps. Bien, elle est devenue championne de yo-yo de Vichy. Il y a tous les ans à Vichy une épreuve de yo-yo qui se tenait, et c'est elle qui l'a remportée. Donc, elle savait jouer au yo-yo. Bien. Et à côté, Vincent Scotto, 56 ans. Donc ça veut dire 36 ans de plus que... pas 36, 38 ans de plus qu'elle, tel qu'il l'était donc à cette époque-là. Il écrit sans doute quelque chose lié à une chanson. Et c'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre et Catherine va vous dire comment ça s'est passé.
C'est un récit par son fils qui avait écrit ça. Elle a 17 ans et demi, c'est l'été à Vichy. Yasmine se fait des amis. On danse partout. Elles vont danser l'après-midi. Et c'est Tosca, une nouvelle amie de 4 ans son aînée, qui, avisant les occupants d'une table à une terrasse de café, dit « Tiens, je vais te présenter quelqu'un ». Elle se fraye un chemin vers une table où un homme élégant, petit, portant moustache noire et cheveux noirs de jais, se lève. Yasmine, Monsieur Vincent Scotto. Il paraît que le monde a cessé d'exister un moment pour les deux protagonistes.
Voilà. Alors pour les deux, on insiste pour les deux, je pense que ça ne peut pas être mis en cause. Vincent Scotto est tombé amoureux de Yasmine, ça se conçoit. Mais Yasmine aussi de Vincent Scotto, pour deux raisons principales. D'abord, ça c'est pas la raison principale, mais c'est un homme qui portait bien, comme on disait. Mais surtout, il avait beaucoup d'esprit et c'était un danseur magnifique. Et elle aussi. Et donc c'est la danse là qui peut-être facilitait les choses entre eux. Et à partir de ce moment-là, eh bien Vincent Scotto et Yasmine ne vont plus se quitter. Ne vont plus se quitter pendant un certain temps. Voici Vincent Scotto à l'époque, son chauffeur Marcel Laplace. Vincent Scotto avait une particularité. Il ne pouvait pas prendre l'avion. Il ne supportait pas. Il ne pouvait pas prendre le train. Il était malade. Il ne pouvait pas prendre le bateau. Le seul moyen de locomotion qu'il utilisait, c'était la voiture. Toujours la même. Et toujours le même chauffeur. Pendant toute sa vie, il a conservé Marcel Laplace comme chauffeur. Pendant très longtemps, ils ont voyagé tous les deux, et à partir de 1930, ils étaient trois. Vincent Scotto était un peu jaloux. Alors, il voulait bien Yasmine, il voulait bien avoir Yasmine, mais il voulait l'avoir tout le temps, à côté de lui. Il faut préciser que Vincent Scotto était marié et qu'il avait une fille. Donc, c'était l'adultère, hein, c'est clair. Donc, il ne pouvait pas l'avoir tout le temps chez lui, mais il voulait l'avoir tout le temps à côté de lui. Alors, sur ce plan de Paris qu'on vous montre ici, l'emplacement numéro 3. Alors, je vais vous montrer ça avec le...
Vous
le voyez, le 3, il est là. Oui. Je suis dessus. Là, ce sont les studios, le studio, pas les, le studio dans lequel Vincent Scotto travaillait. C'est là qu'il écrivait ses chansons, ses partitions, etc. C'est là qu'il recevait les interprètes et un certain nombre de personnes dans le domaine de la chanson. Sur le numéro 4, là, c'est la grand-mère de Yasmine qui habitait là. Elle avait un appartement ici et Yasmine, au début de la relation entre elle et Scotto, a habité chez sa grand-mère. Le numéro 1 ici, c'est le Billard Palace à Paris, que je vais vous présenter dans la diapo d'après. Le Billard Palace où il y avait un club de billard, le plus grand club de France, et c'était aussi le siège de la Fédération française de billard. Et Yasmine va aller jouer au billard là. Pourquoi ? Parce que Scotto lui a dit « Moi, je te veux à côté de moi, donc t'es chez ta grand-mère le soir, le matin, etc., mais dans l'après-midi, il faut que tu te trouves une occupation pas loin. » Donc elle a dit ben, « Moi, j'aime bien jouer au billard, je vais aller jouer au Billard Palace. » Et c'est comme ça qu'elle est devenue première licenciée de France de billard. Il n'y avait pas de femme. Première femme licenciée de France. Et deuxièmement, ça sera la suite, la conséquence, première championne. Enfin, ça sera autre chose, on va voir après. Donc elle va jouer là où se trouve le Billard Palace, boulevard des Capucines. Et puis un petit peu plus tard, Vincent Scotto lui trouve un logement à l'emplacement numéro 2, ici. Un logement qui n'est pas somptueux, mais où elle a quand même de la place. Ça serait l'équivalent d'un quoi maintenant, un T4 peut-être, hein, avec quand même de la place pour mettre un billard. Elle va s'installer un petit billard personnel, là, et recevoir des amis si nécessaire. Donc ça, c'est la situation de nos deux personnages en 3, Scotto, en 2, Yasmine, et en 1, l'endroit où il se retrouve souvent, parce que lui, il aime bien jouer au billard aussi, et il allait la retrouver souvent là-bas. Voilà le Billard Palace vu de l'extérieur. Les boulevards des Capucines à Paris, pas loin de l'Opéra. On rentre donc par cet endroit-là. Les salles du billard sont à l'étage. Il y a le premier étage, la salle des amateurs, là où jouait Yasmine. Deuxième étage, la salle des professionnels, là où jouaient les grands champions d'époque, et en particulier l'un d'entre eux, que certains d'entre vous connaissent peut-être, si vous êtes de la génération, de ma génération, Roger Conti, qui était le meilleur joueur de l'époque. Donc c'est là qu'elle va jouer au billard tous les après-midi. Alors on a retrouvé les carnets de Yasmine, ses petits agendas sur lesquels il y a marqué jour après jour ce qu'elle fait. Et donc sur ces carnets, sur ces agendas, on sait à quel moment elle est allée au billard, on sait avec quel joueur professionnel elle a pris des leçons, on sait dans quel magasin elle est allée acheter des chapeaux, des bas, ce que vous voulez. On sait combien elle a acheté de tickets de métro. Enfin bon, on peut suivre au jour le jour, là, à partir de 1930, la vie de Yasmine. Ce qui est quand même une source fabuleuse pour quelqu'un qui s'intéresse à ce personnage. Revoici Vincent Scotto. À partir de 1930, ses chansons, les chansons qu'il écrit ou dont il écrit l'air, la partition, sont tous inspirés par Yasmine. On vous en a mis une liste, là. Elle vendait des petits gâteaux, c'est lui. Mais ça, c'est pas Yasmine, encore. Je ne suis pas bien portant, c'est lui. Mais c'est toujours pas Yasmine. La trompette en bois, c'est lui aussi. J'ai deux amours, peut-être. La java bleue, ça vient. Tant qu'il y aura des étoiles, et toute la suite... Ça, ce sont des chansons inspirées par Yasmine, et en particulier celle qu'on a mise en jaune sur cette liste, le plus beau des tangos du monde. Le plus beau tango du monde, ça a été une chanson écrite pour Yasmine et sur l'instant. Alors, il n'y a pas de lecture, je crois, sur le plus beau des tangos du monde. On peut dire quelques mots là-dessus. Ils étaient en train de danser un tango, ce qui ne leur arrivait jamais. Ils dansaient plutôt d'autres danses. Bon, je ne sais plus lesquelles. Elle le dit dans ses agendas. Hein. Et puis, ils dansaient celui-là. Et d'un seul coup, Scotto s'arrête de danser. Il va à la table où ils étaient installés et sur la nappe, il se met à écrire des choses. Et c'était l'ébauche de ce qui deviendra le plus beau tango du monde. Donc là, on a un témoignage direct de l'écriture d'une chanson inspirée par Yasmine. On peut dire donc que c'était sa maîtresse, son amante, mais c'était aussi sa muse. À partir de là, bah, les chansons sont interprétées par des gens connus en général, puisque Scotto était un grand compositeur, et on va retrouver Yasmine, accompagné d'un certain nombre de personnages célèbres. Alors là, vous reconnaissez Maurice Chevalier, pour lequel Scotto a écrit plusieurs chansons. Vous reconnaissez un peu plus tard ici Tino Rossi. Alors non seulement Tino Rossi a été photographié plusieurs fois en compagnie de Yasmine, mais ce que l'on peut dire, et Catherine va vous lire un extrait du journal de Christian, je crois,
c'est peut-être elle qui
raconte à Christian. Elle était avec Scotto lorsqu'ils ont découvert Tino Rossi. Alors voici la façon dont ça s'est passé.
La première fois que je l'ai vu, il n'était encore qu'un petit chanteur qui avait eu la chance de recevoir le prix du disque Columbia. C'était en 1933. Vincent et moi étions à Lyon. Nous avions voulu aller l'écouter au cinéma Pathé. Là, dans les premiers rangs de cette grande salle, nous avons entendu une voix ravissante et si douce qu'au sortir du spectacle, je me demandais bien si des derniers rangs, à l'époque on chantait sans micro, on pouvait l'entendre. Tandis que nous nous dirigeons vers sa loge, Vincent, charmé, enthousiasmé, excité par le personnage, me rassura. « Si on l'entend, mais bien sûr, et tu sais pourquoi ? C'est parce qu'il a une voix de flûte. » Tous les trois, nous sommes allés boire un verre et nous avons résolu de nous séparer que sur les coups de 3h du matin, après avoir échafaudé 1001 projets qui devaient presque tous se réaliser.
Alors donc, ça, c'est un personnage important dans la vie de Yasmine. Ils sont souvent ensemble sur différentes photos parce que Scotto, et donc Yasmine avec, suivait les concerts de ses poulains et elle les accompagnait dans les endroits où ils allaient chanter. Alors voici une autre photo où vous reconnaissez peut-être Yasmine, sûrement même, à gauche de la photo. Au centre, un personnage bien connu qui est Marcel Pagnol. Marcel Pagnol et à droite, une actrice bien connue également qui, à l'époque, était avec Marcel Pagnol, qui est celle qui joue Fanny.
Oran de Mazis.
Oran de Mazis qui joue Fanny, donc dans la trilogie de Marcel Pagnol. Marius, Fanny, César, dans l'ordre. Voilà. Alors, Marcel Pagnol, c'était quelqu'un de dangereux, parce que c'était lui aussi un séducteur. Hein. Les femmes qui passaient à portée devaient se méfier. Et Yasmine était censée se méfier. Mais lui, il était censé se méfier de Yasmine. Or, il ne s'est jamais rien passé entre eux. Pourquoi ? Parce que Pagnol et Scotto, c'était vraiment deux amis. Et en fait, l'amitié entre eux protégeait les deux autres de tentations qui n'auraient pas manqué d'advenir parce que l'un comme l'autre avait le charme nécessaire. Bon, pour elle, c'était surtout le charme physique. Pour lui, c'était surtout la conversation et la façon dont il racontait les histoires. Il suffit d'avoir lu un livre de lui pour comprendre ce que je veux dire. Et ils sont restés amis, très amis, pendant tout le temps qu'ils se sont connus. On a retrouvé dans les archives de Christian Moulebrahim, le fils de Yasmine, ce mot de Marcel Pagnol, qui est adressé à Vincent Scotto, qui lui dit « Donne un gros baiser à Yasmine et dis-lui que je suis très reconnaissant de te comprendre si tendrement. Dans 50 ans, elle jouera avec ses petits-fils la ballade de Béranger. Il est assis là, grand-mère, il est assis là. Il s'est assis là, grand-mère, il s'est assis là. » Elle n'a pas eu l'occasion de jouer avec ses petits-fils, la balade de Béranger, parce qu'elle n'a pas eu de petits-fils, mais ça, on va l'apprendre après. Donc voilà pour les fréquentations, je dirais quotidiennes, habituelles, de Yasmine. Alors, on n'a pas mis là-dedans d'autres qui pourraient s'y trouver. On pourrait parler de... comment elle s'appelle la chanteuse. J'ai un trou de mémoire, c'est terrible. Je ne connais que cette chanteuse qui avait des bananes.
Joséphine Baker.
Elle avait des bananes à l'époque. Mais c'était autre chose. Joséphine Baker, c'était autre chose que les bananes, croyez-nous. On a eu l'occasion de l'apprendre, et tout le monde le sait, son rôle dans la résistance en particulier. Mais pas seulement ça. On parle aussi des enfants, par exemple. Donc, il aurait pu y avoir des photos avec Joséphine Baker. Alors, elle joue au billard, Yasmine. Elle prend des leçons, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des professeurs réputés. Et la voici donc en situation de jouer. Là, elle est en train de s'entraîner dans une salle qui est probablement le palace, mais je n'en suis pas sûr. Je connais le palace, je l'ai fréquenté moi-même, et je pense que c'est plutôt un club des boulevards. Mais un journaliste était là, un jour où elle s'entraînait, et voilà ce que dit le journaliste.
Et c'est là, auprès de Grand Billard, que je vis une toute jeune fille s'approcher et commencer sur le tapis vert une série impressionnante de carambolages. Tout d'abord, j'avais cru à une fantaisie. Ce n'était point la première femme que je voyais s'attaquer, en passant, à un jeu qui ne semble simple et facile qu'autant qu'on ne l'a jamais pratiqué. Mais je dus reconnaître au bout de quelques instants qu'il ne s'agissait pas d'une amateur ordinaire. Les coulées, les massées, les coups les plus audacieux ne semblaient avoir aucun secret pour la jeune virtuose. Alors qu'au commencement de son jeu, quelques consommateurs, l'œil ironique, s'étaient arrêtés pour jouir de sa maladresse inévitable, il y eut bientôt autour du billard une foule compacte, intéressée, connaisseuse et justement admiratrice. La jeune fille, tout à son entraînement, ne semblait pas s'apercevoir de l'émotion qu'elle suscitait et continuait fort tranquillement à jouer comme si elle avait été seule.
Voilà, s'il y en a parmi vous qui ont joué au billard français, la règle est simple, avec une bille, il faut toucher les deux autres. Si vous réussissez, vous marquez un point, puis vous recommencez, vous marquez un deuxième point, etc. Eh bien, elle, c'est pas un point, c'est pas deux points, c'est pas 10 points, c'est pas 50 points, c'est 100 points qu'elle arrivait à enchaîner. C'est pas donné à tout le monde. Vous pouvez me croire, hein. J'ai essayé, je suis jamais arrivé. Hein. Donc, c'était une excellente joueuse qui pouvait damer le pion à 98% des hommes joueurs de billard en France, hein, sans difficulté. Alors du coup, la fédération française où elle était licenciée, voyant cela, décide d'organiser un premier championnat de France féminin. Pour elle, en fait. Mais il y avait d'autres joueuses. Et d'autres joueuses se sont inscrites. Et voici les trois premières championnes qui ont participé au premier championnat de France féminin. Alors de gauche à droite, vous avez à gauche... Mademoiselle Solange Quinf, d'après les journaux, mais ça n'est pas Solange, son vrai prénom. Il me reviendra, peut-être. Au milieu, Yasmine, que vous reconnaissez. Et à droite, la troisième compétitrice, qui est Madame Sublet. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, vous la reconnaissez peut-être maintenant, c'est la mère de Yasmine. Qui est elle-même joueuse de billard, bonne joueuse de billard, plus précisément bonne joueuse de billard trois bandes. Il y a des spécialités au billard et elle, c'est elle trois bandes. Donc voilà les trois participantes qui vont se disputer le premier titre de champion de France. Qui gagne ? Je vous le dirai après. Je vous montre d'abord un match, une photo de l'un des matchs de cette finale. En fait, c'est la finale. Elles ont toutes les deux battu Solange Quinf et elles se disputent le titre, la mère et la fille. Et là, c'est la fille qui joue, qui fait ce que l'on appelle un massé. La mère la regarde. Et à l'époque, c'était bon enfant, finalement, la façon dont ça se passait. Maintenant, il y aurait des gradins, il y aurait des arbitres, il y aurait... Bon, là, vous avez deux personnes qui jouent. Les spectateurs sont quand même autour. On ne les voit pas, ils sont devant et à droite de la photo. Hein. Ça se jouait en deux séances. Et en 200 points. Quand on avait atteint 100 points, on arrêtait la première séance et le lendemain, on faisait la deuxième. Première séance, 100 à 95 pour Madame Suglet, qui mène. Deuxième séance, 200 à 190 pour Yasmine, qui gagne. Et donc, vous avez, un peu plus tard, la photo de Yasmine, championne de France, dans la revue de la Fédération française, qui s'appelait à l'époque le billard sportif. Donc, première championne de France. Elle va gagner le titre 7 fois de suite après ce premier titre. Donc, sans désemparer. Et chaque fois, elle bat sa mère. C'est toujours la mère, au final. Donc, il n'y a pas meilleur en France que ces deux-là. Mais elle la bat de plus en plus facilement. Et le dernier... Alors, toujours, ça se joue à Paris, au Billard Palace, sauf le dernier tournoi qui se joue à Nice, dans le fief de sa mère. Parce qu'entre-temps, sa mère a perdu M. Sublet, qui était beaucoup plus âgé qu'elle. Ça aussi, c'est une caractéristique entre Yasmine et elle. Il meurt, et elle s'est remariée à Nice avec un joueur de billard, et elle habite Nice. Donc, le dernier championnat se tiendra à Nice. Il sera encore une fois remporté par Yasmine. Comme elle est vraiment bonne au billard, les médias, le cinéma plus précisément, s'intéresse à elle et lui demande de tourner un petit film à titre de promotion. C'est sans doute la fédération qui est derrière cela, à titre de promotion pour le billard. Donc elle se livre à une démonstration. Le film existe, je sais où il est, mais pour pouvoir l'utiliser, il faut l'acheter. Et il faudrait faire plusieurs conférences bien rémunérées pour pouvoir acheter ce film. Donc malheureusement, on ne vous le présentera pas. Mais je ne désespère pas de la voir par un autre canal. Bon, le problème maintenant, c'est qu'on est en 1938. En 1938, Yasmine a vieilli, elle n'a plus 18 ans, mais Scotto a vieilli aussi. Et il n'a plus 56 ans. Il en a un peu plus. Il a dépassé la soixantaine et ne répond plus aux espérances de Yasmine dans le domaine physique. Et du coup, Yasmine, qui rencontre beaucoup de monde, a rencontré un monsieur qui s'appelle André Daniel et qu'on vous présente ici. Son fils, qui est juché sur les épaules d'André Daniel à l'heure actuelle et qui a lui aussi grandi, comme vous le voyez, le petit Christian, le comparait à Clark Gable. Et quand on regarde les photos de près, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un air de famille avec Clark Gable. Non pas qu'il soit un descendant de Clark Gable d'une façon ou d'une autre, mais il lui ressemble incontestablement. Ça se passe à La Panne, c'est l'été 1938, ils sont sur la plage et Scotto ne le sait pas. Scotto ne le sait pas, donc là il y a quelque chose, il y a déjà ce qu'on appelle un coup de canif dans le contrat au sujet du contrat de mariage.
Ouais. Il n'y avait pas de mariage.
Il n'y avait pas de mariage en plus en l'occurrence. Mais il y avait pire qu'un mariage, c'était quasiment, pour Scotto, c'était, on peut appeler ça un collage, il la voulait vraiment à côté. Hein. Et puis il était jaloux, donc il valait mieux qu'il ne le sache pas. Et puis 38, c'est aussi une mauvaise période, parce que c'est Munich, c'est depuis maintenant 5 ans la montée du nazisme en Allemagne, et ça va bientôt être la guerre. Alors, ça va bientôt être la guerre, c'est tellement bientôt que l'année d'après, eh bien, c'est la guerre. À partir de septembre 1940, la guerre est déclarée entre l'Allemagne et la France, et Paris va vivre un exode. Paris va vivre un exode, des populations vont se retirer vers le sud, là où ils peuvent, là où ils ont des connaissances, là où ils ont des points de chute, et Yasmine va aller au pied du puits de Sancy, dans un chalet, pas loin de Saint-Étienne, finalement, c'est pas très loin de Saint-Étienne, il y a de la famille par là. Elle a trouvé à se loger là avec une amie et leurs enfants, donc il y a Christian qui suit. Scotto, lui, il est parti à Marseille, où il a des connaissances, et donc ils sont à nouveau séparés, Scotto à Marseille, Yasmine au Puy de Sancy. Ça dure le temps que dure la défaite française. Hitler a attaqué le 10 mai, au mois de juin, le 23 juin, je crois, on signe l'armistice, et donc les gens qui peuvent rentrer chez eux rentrent. Les Parisiens qui sont partis dans le sud remontent à Paris, pour ceux qu'ils veulent, ils ne sont pas obligés, hein, et Yasmine remonte à Paris. Scotto va remonter aussi à Paris. Mais quelque chose s'est cassé entre eux. La distance, peut-être, les a séparés, et ça a laissé des traces dans leurs relations. Les relations ne sont plus les mêmes tout à fait qu'auparavant. Et quelque chose de grave va arriver à Yasmine. Sa mère, Rose Buck, va décéder le 2 novembre 1941. Elle va décéder d'un cancer de l'utérus qui a été foudroyant. Elle a pris le cancer, elle est morte en novembre, je crois qu'elle a pris le cancer en février, l'existence du cancer en février, elle est morte en novembre. Ça a été très rapide. Et donc pour Yasmine, c'est une perte énorme. C'est une perte énorme d'abord parce que c'est souvent Rose qui élevait son fils, parce qu'on ne l'a pas dit ça, mais dans sa relation avec Scotto, il y avait quand même un petit garçon là, qui s'appelait Christian et qui était là, et qui ne pouvait pas être là quand ils étaient ensemble, parce que Scotto le refusait. Et donc c'est qui s'occupait de Christian? C'est Rose, c'est la grand-mère. Donc une perte pour Yasmine, une perte pour Christian, et une perte à tout point de vue, affective, financière, tout ce qui tenait Yasmine à ce moment-là va s'effondrer, sauf Scotto, qui est toujours fidèle malgré les difficultés de relation qu'il y a entre eux. Alors, le temps de la guerre va passer. Je peux dire deux mots à ce sujet. Premier mot, Solange Quinf, une des adversaires de Yasmine, qui entre-temps était devenue son amie, a fricoté plus ou moins avec la collaboration. C'était l'amante d'un homme de la Carlingue. La Carlingue, je pense que ça vous dit peut-être, c'est la Gestapo française, rue Lauriston. Donc il y avait là un nommé Pagnon, qui était le bras droit de Lafon, qui était le chef de la Carlingue, et Pagnon est devenu l'amant de Solange Quinf. Solange Quinf avait par lui des informations sur ce que faisaient les Allemands, et elle les retransmettait à ses amis, peut-être à Yasmine, on n'en est pas sûr. Mais on pense que Yasmine, qui a prévenu 2-3 juifs de sa connaissance d'une descente imminente qui les concernait, a eu des informations de la part de Solange Quinf. On ne voit pas qui d'autre aurait pu lui dire. Et parmi ses connaissances juives, il y avait un parolier, Géo Koger, qui était le parolier du plus beau tango du monde, par exemple. Donc c'est elle qui l'a informé qu'il était menacé d'une descente. La deuxième chose que l'on peut dire, c'est que Solange Quinf, entre-temps, s'est mariée aussi. Bon, elle était un petit peu olé-olé. C'était une dame du demi-monde, on peut dire. Et elle ne s'est pas mariée avec n'importe qui. Elle s'est mariée avec le duc d'Abrantès, descendant direct de Junot, à la 6e génération, et elle était devenue marquise d'Abrantès. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire sur ce qui s'est passé pendant la guerre, entre autres. Alors, nous sommes maintenant en 1943, et Yasmine va faire la rencontre d'un monsieur qui est un peintre, galériste en réalité, mais qui peignait aussi, qui s'appelle Arrigo Ruini. C'est un Italien qui avait quitté l'Italie pour des raisons politiques, c'était sous Mussolini, il n'était pas d'accord avec Mussolini, et il avait donc quitté l'Italie pour la France. Mais il était marié, il avait une fille lui aussi, un fils, qui étaient, eux, restés en Italie. Et ils cherchaient à se loger en France. Il avait une amie, Madame Mariani, qui était aussi une amie de Yasmine. Et Madame Mariani a contacté Yasmine pour lui demander si, par hasard, elle ne pouvait pas héberger dans son appartement qui était grand, Monsieur Ruigi. Yasmine a accepté. Si vous regardez Monsieur Ruigi, vous lui trouvez peut-être une ressemblance avec un acteur italien de l'époque. Ça vous dit rien ? Moi non plus, dans l'immédiat. Mais ça va me revenir, peut-être. Vittorio De Sica.
Ah oui.
Il ressemblait à Vittorio De Sica. La photo, quand on compare de photos, on a comparé, parce que Christian nous avait dit ça, le premier ressemblait à Clark Gable, le deuxième ressemblait à Vittorio De Sica. On a comparé, oui. Il y a une ressemblance certaine. Donc il était assez séduisant, le monsieur. Et il habitait chez Yasmine, qui était assez séduisante aussi. Et donc vous devinez ce qui s'est passé. Ils ont eu un enfant ensemble. Ils ont eu une petite fille. une petite fille en 1900, plus tard, 44. Mais il s'est passé aussi autre chose avant la petite fille, c'est que Vincent Scotto a eu vent de la chose. Il a appris qu'elle hébergeait ce monsieur, il n'a pas été content, vous pouvez le deviner, et il lui a écrit ce qui est une lettre de rupture. Donc l'original existe, il fait partie des archives familiales, vous en avez ici la photographie d'origine, hein, c'est pas un facsimilé mais presque, et il rompt, mais il est gentil quand même, si je puis dire, il rompt toute relation affective serrée, hein, mais il continue de l'employer, de lui payer son appartement, c'est une rupture, mais pas vraiment. Hein. C'est, parce que, bon, lui, il repartirait bien pour un tour. Hein. Alors, voici la petite fille, c'est 46, c'est Rose. Elle l'a appelée Rose, on peut comprendre pourquoi, en mémoire de sa mère. Et Rose, avec son frère Christian, est quand même de 28 à 46. Il y a 18 ans d'écart. Si, 18 ans. 28, 46, 18, je crois, si je ne me trompe pas. Donc ça fait quand même un grand frère et une petite sœur. Hein. Du coup, la proximité d'Arrigo Ruini fait que Yasmine va s'intéresser à la peinture. Et ils ouvrent une galerie ensemble à Genève. Donc voici une photo de la galerie, ça se passe à Genève, où il y a déjà beaucoup de galeries, mais il y en a une de plus. Ça n'était pas une galerie quelconque, hein, c'était des peintres et des tableaux qui étaient présentés, qui étaient des tableaux de valeur, des peintres connus. Il y avait Raphaël, il y avait des peintres récents, connus, enfin bon, ça n'était pas n'importe quoi. Mais il paraît, je ne parle que d'après ce que m'a dit, ce que nous a dit d'ailleurs, on était tous les deux chrétiens, les galéristes, c'est un monde féroce. Un de plus dans une ville est combattu terriblement. Et donc la galerie a vivoté. Et elle a eu du mal à fonctionner. Elle a fonctionné plus ou moins parce que Ruini avait des antennes à Bruxelles où il avait une galerie, ailleurs en Italie où il avait une galerie. Donc il pouvait quand même, si celle de Genève ne fonctionnait pas bien, s'en sortir. Par contre, Yasmine, elle n'avait que ça. Elle avait abandonné son secrétariat et elle vivait de ce que pouvait lui rapporter la galerie où elle était devenue la partenaire. C'est plus que partenaire, d'ailleurs, le terme qui convient, l'associé de Ruini. Il lui vient à l'idée de repartir, voir où on en était du côté de l'héritage Moulay-Brahim. Parce que Moulay-Brahim, il était mort. Sa mère, maintenant, Rose, était morte. Donc, l'héritière de Moulay-Brahim et de Rose, c'était Yasmine, leur seul enfant légitime. Parce qu'on suppose que Moulay-Brahim, il avait eu des enfants. Hein, on ne sait pas trop où ni combien, mais on suppose. Donc, Yasmine se dit, bien, tout irait beaucoup mieux pour moi si je pouvais retrouver un certain standing auquel je suis habitué, et retrouver mon héritage, en fait. Donc, elle fait des démarches, et elle s'adresse pour cela à Georges Gautron, qui était spécialisé dans ce genre de recherche, qui devient très vite un ami, qu'elle soigne, avec beaucoup de dévouement, qui en tombe éperdument amoureux, hein, et qui s'occupe de ses affaires en Algérie par l'intermédiaire d'une autre officine. Et là, ça remue un petit peu en Algérie et apparaît un personnage différent qui est à l'écran, là, en photo, qui s'appelle Belhosni, Mohamed Belhosni, qui est shérif d'Ouezan, lui aussi. Il y a plusieurs shérifs d'Ouezan qui dépendent de la même famille, mais à différents endroits. Et lui, c'est à Ami Moucha. Il vient voir Yasmine à Paris où il doit se faire opérer de l'œil et il lui propose de s'occuper de ses affaires, d'essayer d'arranger ses affaires d'héritage. Donc il retourne en Algérie et il n'arrange rien du tout. Il n'arrange rien du tout parce que c'est très compliqué et on lui fait très vite comprendre que tant qu'Yasmine restera catholique, gardera sa liberté d'action, il ne sera pas question d'héritage. Donc, en fait, il préfère ne rien dire à Yasmine, il dit rien. Du coup, Yasmine, elle envoie son fils à Alger, puis à Oran, pour faire les mêmes démarches, et il revient avec les mêmes conclusions. Il ne faut plus y penser, à cet héritage. Alors, du coup, elle se met à travailler pour gagner sa vie. Elle se met à travailler, mais ce sont des affaires un petit peu louches, plus que louches. Elle ouvre d'abord différents magasins où l'on vend des habits. Elle n'est pas faite pour ça, hein, ce n'est pas son métier. Elle est sténodactylo de formation. Elle ouvre une autre galerie d'art, entre guillemets. Et puis elle se met à... les affaires ne sont pas bonnes, hein, dans ces emplois-là. Elle se met à emprunter de l'argent à ses amis fortunés, à Solange Quinff, à d'autres sans doute, qu'elle doit rembourser bien sûr. Elle se met à faire des chèques sans provision. Ça commence à devenir un petit peu inquiétant ce qui se passe. Il ne faut pas oublier qu'elle a deux enfants à sa charge, à sa charge seule cette fois. À sa charge seule, d'autant plus que Scotto, il va mourir. Il avait coupé les vivres à un moment, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais un peu après la rupture, il a coupé les vivres, et il va mourir. Donc de toute façon, elle est livrée à elle-même. Et elle commence à faire des bêtises. Et parmi ces bêtises, donc les chèques sans provision déjà, c'est pas mal, mais elle en fait de plus grosses encore, parce qu'elle a des relations avec des personnalités haut placées, politiques, militaires, du monde du showbiz et autres, auxquels elle présente, lorsqu'ils sont du sexe masculin, de jeunes filles, des jeunes filles. Des jeunes filles qui sont parfois mineures. Et donc là, la justice s'en mêle. Elle s'en mêle parce que ça finit par apparaître. Hein, et on l'emprisonne. On emprisonne Yasmine parce que y a un prétexte bien connu, proxénétisme. Hein. Le motif de l'emprisonnement, c'est ça. Et on retrouve des lettres, toute une série de lettres, adressées à Mademoiselle Moulay-Brahim à la prison de la Petite Roquette à Paris, où elle va rester plusieurs semaines. Et là, les gens qui étaient ses amis vont, pour un grand nombre d'entre eux, ne plus se manifester. En revanche, d'autres, qui n'étaient pas forcément les meilleurs amis, vont, eux, la soutenir. Parmi eux, Georges Gautron, dont je vous parlais tout à l'heure, celui qu'elle a soigné, qui s'était occupé de ses affaires d'héritage. Parmi eux, un personnage qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent, qui s'appelle Michel Pontoiseau, qu'elle avait rencontré à l'occasion d'un salon de peinture. Ils avaient sympathisé, plus que sympathisé, il en était tombé amoureux, et elle aussi. Et donc, du coup, il vient lui rendre visite à la prison de la Petite Roquette. Catherine va vous lire un extrait d'une lettre qui est écrite par Georges Gautron, parce qu'il écrivait à Yasmine, quand il venait pas la voir, lui écrivait. Et donc, voici la lettre de Georges Gautron, un extrait de cette lettre.
« Je te connais assez pour être convaincu que la totalité de tes égarements sont la conséquence de ta solitude dans la vie. Tu avais et tu as encore toutes les qualités pour être une épouse dévouée et affectueuse. Je ne puis oublier avec quel dévouement tu m'as soignée il y a 5 ans. Mais tu ne dois plus te retrouver seule, sinon tu retomberas immanquablement dans le circuit des gens tarés que tu n'as que trop fréquentés et qui t'ont conduite à l'abîme. »
Voilà. Et en fait, il y a une sorte de concurrence épistolaire entre Georges Gautron et Michel Pontoiseau, tous deux prétendants à la main de Yasmine, à sa sortie de prison. Et c'est Pontoiseau qui, finalement, va l'emporter, plus jeune, séduisant, lui aussi, vous allez le voir tout à l'heure, il a belle allure, alors que Georges Gautron est plus âgé, d'une part, et surtout avait une maladie, celle dont Yasmine l'avait soignée, qui était visible. Il avait une sorte de maladie de peau qui n'était pas agréable de près. Alors voici, il a une photo de famille. Finalement, à la sortie de prison de Yasmine, au bout de quelques semaines, ils se marient, Michel Pontoiseau et elle. Et vous les voyez ici en photo avec, à gauche, Michel Pontoiseau, au centre, Rose, la fille de Yasmine, et à droite, Yasmine, à ce moment-là. Nous sommes en 1955. Arrigo Ruini, il est toujours là, hein. Il est toujours là, mais il n'habite plus chez Yasmine. Il habite du côté de Fontainebleau parce que sa femme et, son fils sont revenus d'Italie en France. Et donc, il a regagné le foyer il n'est plus hébergé chez Yasmine. Au passage, il a changé de nom. Il ne s'appelle plus Ruini, il s'appelle Trève. Il a pris le nom d'une de ses grand-mères, grand-mère maternelle, je crois. Je n'en suis pas sûr, mais grand-mère maternelle, probablement. Donc, il s'appelle maintenant Arrigo Trève. Et il va quitter, alors pourquoi, je ne sais pas, hein. Enfin si, on sait probablement, mais on ne l'a pas en mémoire, c'est sans doute une histoire politique, hein. C'est lié à ce qu'il a fait fuir l'Italie, mais on n'a pas le détail. Et puis il s'apprête à partir aux États-Unis, et il va partir aux États-Unis, mais il part avec la famille, bien sûr, mais aussi avec les tableaux. Plus de galeries, hein, plus de galeries. Donc maintenant, la configuration pour Yasmine est la suivante. Elle est mariée avec Michel Pontoiseau, donc qui, lui, est pigiste. Il a été surveillant dans un établissement scolaire. Il écrivait des articles pour les journaux, il faisait des piges. Il était spécialisé dans le monde de l'art et la gastronomie. Donc, il continue à écrire des journaux et à gagner sa vie de cette façon-là. Mais ce n'était pas des gains extraordinaires. Ce n'était pas un journaliste extrêmement connu. Et elle se met à travailler dans sa formation cette fois-ci. Elle devient secrétaire dans un certain nombre d'endroits. On a la liste des feuilles de paye. On pourrait donner la liste. D'ailleurs, je crois qu'elle est peut-être dans le bouquin. On en parle dans le bouquin. Des différents endroits par où elle est passée, où elle a à chaque fois donné satisfaction et où à chaque fois elle a eu une sorte de promotion. Et donc, elle s'est mise à gagner sa vie, plus ce qu'apportait Michel Pontoiseau. Ça leur a permis de vivre honorablement. Voici ici, avant le départ de Arrigo Trève, un portrait de sa fille et de celle de Yasmine, bien sûr, fait par donc son père, Arrigo. Mais un portrait qui va malheureusement être suivi en 1963 du décès de Rose. Elle attrape une leucémie foudroyante, elle aussi, un peu comme la mère de Rose avait eu un cancer de l'utérus très rapide. Eh bien, elle, c'est une leucémie et en 6 mois, elle décède. Inutile de vous dire que pour Yasmine, c'est une épreuve extrêmement douloureuse. Je pense que c'est sans doute ce que l'on peut faire de pire et qu'elle aura beaucoup, beaucoup de mal à s'en remettre. Elle donnera les apparences de s'en remettre, mais en pratique, en réalité, elle est touchée au cœur. Alors tous les deux, Michel Pontoiseau, qui s'intéresse à la peinture, qui connaît le milieu de la peinture, et Yasmine, qui l'a appris auprès d'Arrigo Trève, se mettent à organiser des expositions et faire des salons. Et comme elle a un carnet d'adresses particulièrement bien garni, elle fait appel à des connaissances connues, à des gens connus d'elle. Alors vous avez sur cette photo, c'est le premier salon qu'ils organisent ensemble, ça se passe à Blois, et au centre, vous avez Michel Pontoiseau, et à gauche, je ne sais pas si on le reconnaît sur cette photo, mais c'est Michel Debré, qui était à l'époque, je crois, maire d'Amboise. Ou, je ne sais pas si c'est Blois, je pensais plutôt Amboise. C'est Amboise, hein, c'est bien ça, je ne dis pas de bêtises. Et à droite, vous avez Ludmila Cherina, hein, donc des personnages connus qui viennent, qu'elle avait bien connus avant et qui viennent en appui, en image pour ce salon. Vous avez ensuite une série de salons qui vont suivre tous les ans. Il y a un salon qui s'organise. Et là, vous reconnaissez Michel Pontoiseau toujours, mais cette fois-ci avec Michel Morgan. Vous avez ensuite toujours Michel Pontoiseau avec cette fois Yasmine et quelqu'un que vous connaissez bien aussi au centre qui est Grace Kelly. Qui est à l'époque princesse de Monaco, hein, et avec laquelle des liens vont se nouer assez serrés, assez forts, comme d'ailleurs avec les précédents. Et ils organisent en plus des salons un certain nombre de repas dans des hôtels, dans des restaurants, chez Yasmine, ça dépend des cas, mais toujours avec beaucoup de monde et des invités prestigieux. Alors ici, sont peut-être moins prestigieux ceux-là que ceux qu'on vous a montrés avant, mais au centre, bien sûr, vous avez Yasmine. À gauche, c'est un peintre qui était connu à l'époque, qui s'appelle François Bouchex. Et puis à droite, vous avez l'un des frères Jacques, que vous reconnaissez peut-être à sa petite moustache. Il n'était pas très grand, ils étaient deux frères. Mais vrai frère, véritable frère, et lui, c'est l'un des deux. Je me souviens plus du prénom, mais c'est l'un des deux. Voilà. Il y a un texte à lire. François Bouchex va vous décrire l'ambiance d'un de ses repas.
Vous croisiez Yasmine Douézan dans tous les vernissages, toutes les expositions de Paris. C'était une femme passionnée de peinture, amatrice elle-même, fine connaisseuse et ultramondaine. Chaque année, elle organisait le prix Léonard de Vinci à Paris, qui mobilisait un nombre de journalistes impressionnant. Son carnet d'adresses comptait tous les peintres importants d'après-guerre et quantité d'industriels, mondains, vedettes, hauts fonctionnaires ou ambassadeurs. Pendant les 30 ans que je l'ai connue, Yasmine Douézan n'organisait pas moins de 2 dîners par semaine, le plus souvent 3, rarement plus de 4. Et toujours dans des restaurants prestigieux, des hôtels de luxe ou dans son magnifique appartement. J'y croisais une foule bigarrée de personnes, des plus sérieuses aux moins recommandables.
Voilà. Quand on confronte un témoignage tel que celui-ci avec les sources, on est souvent amené à reconsidérer le témoignage. Alors vous remplacez semaine par mois dans ce témoignage et ça correspondra mieux à la réalité. Mais enfin, ça veut dire quand même que 2-3 repas prestigieux par mois, il fallait les organiser. Ça, c'était le boulot de Michel Pontoiseau, qui était remarquable dans ce domaine. C'était un organisateur né. Et puis, ils se sont mis ensuite, puisque Pontoiseau était aussi critique gastronomique, il faisait des critiques pour les journaux dans ce domaine-là aussi, ils se sont mis à organiser des cérémonies avec récompense pour des grands chefs, hein. Alors, des grands chefs, parce que le premier d'entre eux, ça a été Ducasse. Le premier qu'ils ont récompensé, Ducasse, c'est quand même pas n'importe qui. Et bien, la photo ne vous montre pas ici Ducasse, hein, c'est une autre cérémonie qui avait lieu, là encore, tous les ans. Donc, il y avait les salons de peinture, il y avait les expositions de peinture, il y avait les cérémonies où on décernait un prix gastronomique qui portait peut-être un nom, je ne sais plus, ça a changé de nom, hein. Et il y a à nouveau là une série de photos dans les archives familiales avec des chefs prestigieux. La Fédération française de billard, pendant ce temps-là, elle ne jouait plus au billard, Yasmine. Alors au fait, pourquoi elle ne jouait plus au billard? Eh bien, elle avait donné une raison. La fin de la guerre a coïncidé avec un changement de billes dans le billard. On jouait auparavant avec des billes en ivoire. Des billes en ivoire tirées des défenses d'éléphants. On tuait 2000 éléphants par an, 2000 éléphants par an, pour le billard. Ça ne pouvait pas durer. Donc sont apparues des billes synthétiques, et Yasmine a refusé de jouer avec des billes synthétiques, expliquant que ça n'avait pas le même rendement que des billes en ivoire, et qu'elle n'entendait pas se remettre au travail pour s'habituer aux billes synthétiques. Ça, c'est une décision typiquement Beuk. Le caractère est affirmé, et on affirme son caractère. Mais la Fédé, elle, bien qu'elle ne jouât plus au billard, ne l'avait pas oublié, et en 1980 et quelques, le président de la Fédération, qui s'appelait André Hortebise, lui a remis la médaille d'argent de la Fédération pour la remercier, pour les services rendus au billard au temps de son époque glorieuse, la décennie des années 30, où elle gagnait, où elle raflait tous les titres, et où elle était le porte-drapeau du billard féminin en France. Donc voilà la cérémonie de remise de médaille. Monsieur Hortebise est là en train de faire un discours, et ensuite il y a d'autres photos où il lui remet des médailles et un certain nombre de choses, dont des fleurs, bien sûr. Scotto était mort, mais elle n'avait pas oublié Scotto. Elle n'avait pas oublié ce qu'elle lui devait. Et pour le remercier de ce qu'il lui a apporté, et Dieu sait s'il lui a apporté, elle crée une amicale des amis de Vincent Scotto, dont voici ici un petit fascicule qui explique ce qui est fait dans cette amicale. Donc elle en est la présidente, il y a la liste des membres, et ils organisaient soit des concerts, soit des expositions, un certain nombre de choses, ce que fait une amicale qui veut promouvoir telle ou telle personne ou telle activité. Elle existe toujours, je crois, cette amicale à Aix-en-Provence. Et elle fonctionne avec, évidemment, un autre comité directeur que celui qui est présenté sur cette diapositive. Et puis le temps passe et Yasmine vieillit. Elle continue d'organiser ses expositions, ses manifestations de gastronomie ou de peinture. Mais elle arrive à l'âge de 80 et quelques années et un soir, fatiguée, elle s'endort. Et elle ne se réveille pas. Elle s'était faite toute belle parce qu'il y avait quelque chose le lendemain, je crois. Mais bon, le lendemain, Yasmine avait cessé de vivre. Au désespoir de beaucoup de monde, en particulier de son fils. Son fils qui était passé à côté de sa mère, parce que tant qu'elle était dans les années fastes, je dirais, de sa vie, lui avait été élevé par sa grand-mère, encore une fois, Rose. Et puis après, il avait fait des études, il avait travaillé, bien travaillé, Conservatoire des Arts et Métiers, etc. Il l'avait peu connu en définitive. Et il avait reporté toute son affection perdue au moment où il aurait fallu la voir sur la fin de sa vie. Il a écrit, on a retrouvé chez lui, il a écrit sur un petit cahier ce que sa mère lui disait, ce qu'elle lui racontait, et on sent toute l'affection qu'il y avait derrière. Donc pour lui, ça a été une perte extrêmement douloureuse, et je crois que l'autorisation qu'il nous a donnée d'écrire le livre est liée aussi à cette particularité. Alors Yasmine, morte, on l'a enterrée, il y a eu deux cérémonies, une cérémonie catholique à l'église Notre-Dame des Victoires à Paris, tous ceux qui connaissaient Yasmine et qui étaient catholiques ou athées, pas musulmans en tout cas, venaient. Et puis une deuxième cérémonie musulmane, je pense que c'est à la grande mosquée de Paris, où la famille musulmane en fait est venue. Yasmine n'avait jamais choisi de rentrer dans cette famille véritablement, mais ne l'avait jamais non plus abandonnée. Elle est allée de temps en temps chez les membres marocains au Maroc. Elle a reçu tous ceux qui venaient lui rendre visite, sans jamais plier sur le fait qu'elle ne voulait pas devenir musulmane. Voilà. Alors, nous terminons conférence ou cette présentation plutôt de la vie Yasmine sur la photo de celui qui nous a permis de la faire. Voilà Christian. Je suis assez ému parce que on l'a perdu. Il avait 95 ans au printemps. Et moi, ça me touche beaucoup. Je suis désolé.
Je crois qu'il avait une grande admiration pour sa mère. Il l'avait sûrement pas mal idéalisée parce qu'il n'avait pas beaucoup vécu avec elle. Mais c'est vrai que c'est une femme qui a su faire face un peu aux difficultés, qui a su assumer ses choix à des moments vraiment pas faciles. Donc c'était une femme libre. Et à son époque, c'était pas du tout évident, je pense, encore beaucoup moins que maintenant. Voilà. De mon petit chéri. Alors.
Motif. Voilà.
Période où faire ce qu'elle a fait, c'était très compliqué.
Ah, peut-être très compliqué.
Bon, je dirais Yasmine ou l'art de rebondir. Hein.
Oui,
dans la vie, elle savait s'en sortir.
Hein. Ah oui, tout à fait.
Je ne sais pas, on peut tenter un essai avec le son de l'ordinateur.
Non.
Ah oui.
Ah oui, non.
Alors, on ne peut pas.
Eh bien, nous allons vous remercier. C'est une drôle de vie. Hein.
Mais quelque part, c'est... Oui, il y avait une question.
Oui, moi j'ai une question qui concerne le billard. Qu'est-ce qui empêcherait, qui empêchait que les compétitions de billard soient mixtes?
Rien.
Parce que le billard, c'est comme le cheval.
Il n'y a rien.
Rien. D'ailleurs, il y en a.
Rien n'empêche. D'ailleurs, elles existent, mais même à l'époque, rien de physique n'empêche les femmes de jouer au billard. Rien d'intellectuel ou ce que vous voulez n'empêche les femmes de jouer au billard.
C'est l'histoire.
C'est quelque chose qui n'est pas physiquement difficile. C'est quelque chose qu'on peut jouer toute sa vie. Rien
n'empêche. Elle est bonne, sa question. Au contraire.
Mais en fait, c'est...
En fait, c'est sociologique.
Voilà.
Mais exactement.
C'est sociologique. Ce qui s'est passé, je le raconte dans l'histoire du billard en France, je fais de la publicité au passage, mais il faut expliquer ça. Au 19e siècle...
Pardon. Seconde.
Je vais même commencer avant le 19e siècle. Sous l'Ancien Régime, quand vous avez des gravures représentant un billard, autour du billard, il y a autant de femmes que d'hommes. Il n'y a aucun problème. La Révolution intervient, le billard se popularise dans un premier temps, s'embourgeoise dans un deuxième temps. Et c'est le deuxième temps qui est important. Pour les bourgeois, les billards, ils étaient dans les cafés. Les femmes ne vont pas dans les cafés.
Ben voilà.
Les femmes, elles sont à la cuisine. Donc elles ne jouent pas au billard. Oui. Il y en a qui... Mais bien sûr, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des femmes qui ont joué au billard, mais ça n'était pas recommandable, disons, pour un bourgeois.
Au Billard Palace, il n'y avait pas de bar. Il y avait un bar pour les joueurs, mais il n'y avait pas de café pour mendier au Billard Palace.
Le Billard Palace est l'une des premières salles de billard. Oui, c'était une salle de billard, voilà. C'était pas un bar. C'était pas un bar. Mais au 19e siècle, le Billard Palace a été créé à la fin du 10e. Oui, le Billard Palace a été créé à la fin du 19e siècle.
Vous avez une question ? Excusez-moi, d'abord merci pour votre conférence. C'était simplement pour savoir s'il y avait une descendance à l'époque actuelle, c'est-à-dire si Christian a eu des enfants.
Non, il n'a pas eu d'enfants.
Et où va tout ce patrimoine ?
Alors, le patrimoine algérien, bon, on l'oublie. Après, elle n'avait pas de biens, Yasmine, vraiment. Hein.
Le seul patrimoine qui existe, c'est le patrimoine de Christian,
oui.
Qu'il a constitué, parce que bon, il gagnait bien sa vie, les documents familiaux qu'il a pu conserver,
on ne sait pas ce qu'ils
c'est
sont
tout ce qu'il y a comme patrimoine.
On ne sait pas parce qu'en fait, on l'avait encouragé à fournir à un musée les documents concernant au moins une partie des documents concernant
le billard.
Il y a toutes les mais non le billard et les archives, enfin les documents concernant le billard ont été remis à la Fédération française de billard. Ça a été fait en partie.
En particulier, le jeu de billes en ivoire de sa mère.
Voilà.
Elle avait un jeu
mais
de billes en ivoire.
Mais il y a toutes les photos de tous ces gens qu'elle a fréquentés. Il y a toutes les lettres de Vincent Scotto. Enfin, il y a un paquet de lettres comme ça. Parce qu'il lui écrivait tous les jours, donc il y a un paquet de lettres comme ça. Donc il y a eu une exposition qui a été faite par un organisateur d'exposition à Vienne, je crois, en Autriche. Et avec ce monsieur, avec qui nous étions aussi en relation, on a essayé de voir si il pouvait pas donner les archives de sa mère. Bon, il a eu du mal à se décider à faire le pas, et puis finalement, il est mort sans avoir pris de décision, je crois, et ses amis qui devaient s'occuper de sa succession devaient nous contacter s'il y avait eu quelque chose de... Mais je crois qu'il n'avait rien écrit par rapport à ça.
Il n'a pas su se décider suffisamment tôt. Il était partant pour les... Les donner à quelqu'un, un centre d'archives ou une association. Mais...
Bon, en tout cas, elle a déjà fait ce qui était bien, c'est-à-dire de se mettre en relation avec vous, voilà. Ce qui vous a permis d'écrire ce bouquin... Qui est là, donc vous êtes l'auteur de ce livre, Yasmine Moulay Ibrahim, princesse d'Ouessant, très beau livre. Et je rappelle aussi que vous êtes l'auteur d'une histoire du billard en France.